Bonjour, vous êtes sur RDC, Radiodiffusion Charentaise. Vous êtes sur RDC avec Stéphane, RDC 93.4 et 92.5, ou bien sur le site www.radio-du6rdcfm.com. Il est l'heure de l'émission Donnez-nous vos notes. Bienvenue à toutes, bienvenue à tous. Une note, des notes, donnez-nous vos notes. Des notes, des bonnes notes. Donnez-nous des bonnes notes, rien que des bonnes notes. Donnez-nous vos notes. Passeurs et passeuses de rêves, donnez-nous vos notes. Passeuses et passeurs d'émotions, donnez-nous vos notes. Musiciens, musiciennes, magiciens des sons, magiciennes des sons, magiciennes des mots, magiciens des mots, donnez-nous vos notes. Chanteurs ou chanteuses, instrumentistes, en solo comme en groupe, donnez-nous vos notes. Donnez-nous vos notes aujourd'hui sur les ondes de RDC, Radiodiffusion Charentaise, 93.4 et 92.5, sans oublier le site www.radio-du6rdcfm.com. Qui veut bien nous donner ses notes aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est le Quatuor Hermione qui nous fait le plaisir de nous donner ses notes, que dis-je, de nous donner, de nous offrir ses notes. Bonjour amis de RDC, bonjour auditrices, auditeurs de l'émission Donnez-nous vos notes, que j'ai le plaisir d'animer, toujours parfaitement accompagné par Jean-Marc, pour la technique qu'il sait à chaque fois déployer. Et puis merci encore auditrices, auditeurs qui nous écoutez, parce que je veux vous dire combien je suis heureux des nombreux témoignages de satisfaction qui sont envoyés, autant de reflets du plaisir des auditrices et des auditeurs à suivre une fois par mois l'émission Donnez-nous vos notes. Le Quatuor Hermione que nous recevons aujourd'hui, alors c'est un quatuor particulier parce qu'ils sont trois. La quatrième, mais on va vous dire tout ça plus précisément, n'a pas pu, a eu un empêchement de dernière minute. Et puis ils ont quand même relevé le défi de faire un quatuor à trois. Alors bonjour, et puis bonjour Cécile.
Bonjour.
Bonjour Christine.
Bonjour.
Et bonjour Jacques.
Bonjour.
Alors qui êtes-vous? On commence par la galanterie oblige. Jacques a laissé la parole aux dames.
Alors bonjour, je suis Cécile Mardiquian, dont je suis violoniste au sein du Quatuor Hermione. Je suis aussi membre de l'orchestre de Chambre Nouvelle-Aquitaine et j'enseigne le violon au Conservatoire Gabriel Fauré de Grand Angoulême. Je parle pour Catherine, donc qui n'est pas là, qui est aussi violoniste au sein du Quatuor, qui est elle aussi membre de l'orchestre de Chambre Nouvelle-Aquitaine et qui enseigne le violon au Conservatoire à rayonnement régional du Grand Poitiers.
Bonjour, donc moi je suis Christine Tessier, je suis altiste dans ce quatuor et donc j'enseigne également au Conservatoire de Poitiers, donc un rayonnement régional, et je suis également co-soliste à l'Orchestre de Chambre Nouvelle-Aquitaine, dont on parlera sans doute un peu plus longuement tout à l'heure.
Ça se pourrait bien.
Bonjour, donc je suis Jacques Nicolas, je suis violoncelliste, donc violoncelliste au sein du Quatuor Hermione bien sûr, et je suis également violoncelliste dans l'Orchestre de Chambre Nouvelle-Aquitaine. Voilà, et je suis professeur au conservatoire à rayonnement départemental de Grand Angoulême.
Alors, vous m'avez parlé les unes et l'autre, ou les uns et les autres, d'un conservatoire à rayonnement départemental ou régional. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que moi, je ne comprends pas trop cette terminologie. Qu'est-ce qui différencie? Pourquoi?
Alors, en fait, c'est un peu en fonction de la taille de l'établissement. On peut résumer comme ça, parce qu'évidemment, les villes, préfectures, il y a les préfectures de région qui sont plus grandes que d'autres. Voilà. Donc nous, puisqu'on est là sur deux préfectures, Poitiers, le quatuor est constitué de membres qui sont poitevines et puis de membres angoumoisins et angoumoisines. Donc voilà, la préfecture de Charente, Angoulême, est un peu plus petite que Poitiers. Et du coup, voilà, c'est la taille. En gros, le conservatoire à rayonnement départemental d'Angoulême, il a à peu près 1000 élèves, alors que celui de Poitiers...
Oui, nous sommes plutôt autour de 1400, voilà. C'est aussi en rapport avec la taille du bassin de population.
Voilà. Et puis donc, il y a d'autres conservatoires à rayonnement municipal peut-être, et à rayonnement national, pour ne parler que celui de Paris et de Lyon, je crois, pour ce qui concerne notre pays. Alors, vous m'avez parlé de violon, ça je sais ce que c'est. Un alto, on en rencontre déjà beaucoup moins.
Alors en fait, on en rencontre tout le temps, mais on ne sait pas que ça s'appelle comme ça. C'est ça en fait.
Inconnu.
Absolument.
Alors parlez-nous de l'alto, tiens, commençons. Décrivez-nous l'alto.
Donc l'alto, c'est exactement comme le violon, c'est-à-dire c'est exactement la même forme. Ça se pratique exactement de la même façon. On entendra peut-être un petit peu tout à l'heure plus précisément les différences et les ressemblances. Donc voilà, on frotte les cordes exactement de la même façon avec un archet, sauf qu'il est un petit peu plus grand. Et donc en musique, tout ce qui est plus grand est plus grave. Et donc on pourra aussi constater tout à l'heure que l'alto sonne un petit peu plus grave que le violon.
D'accord, donc le quatuor, c'est les instruments les plus aigus, ce sont les deux violons, c'est ça ?
Tout à fait.
Après l'alto,
voilà,
et après le violoncelle.
Voilà,
c'est
le plus grave.
Pourquoi deux violons ?
C'est, écoutez, c'est comme ça, c'est la formation du quatuor.
C'est historique ?
Toujours, oui, c'est historique, deux violons pour se partager les thèmes à deux voix.
Provoquer des réponses, des échos.
Voilà, des dialogues, provoquer des harmonies.
Oui, peut-être ça fait une harmonie, ça permet de rendre une harmonie, c'est-à-dire des différents sons superposés de façon un peu plus riche, parce que du coup, au lieu d'avoir que trois voix, par exemple, qui seraient violon, alto, violoncelle, comme dans un trio, le quatuor, c'est vraiment une formation qui permet d'avoir quatre sons, et c'est vrai que les accords, on peut dire, c'est-à-dire la superposition de quatre sons, ça permet d'avoir une harmonie, on va dire, une musique.
Une organisation des sons, oui, plusieurs sons ensemble,
en fait.
C'est ça l'harmonie finalement.
C'est ça, tout à fait.
Plus développé, plus riche, plus voilà. Important, plus
oui,
large, comment dire
fait.
Encore. D'accord. Les cordes frottées, c'est ce qui vous relie, c'est ce qui vous lie finalement par rapport aux instruments. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres instruments à cordes qui ne sont pas des cordes frottées ?
Oui, tout à fait. Alors, il y a les cordes frappées avec le piano, instrument roi et très connu s'il en est. Et puis il y a aussi les cordes pincées, dont fait partie la harpe. Il y a aussi le clavecin qui a des cordes pincées également. C'est un clavier de la même façon que le piano, mais au lieu de frapper, on pince les cordes. Le système mécanique permet de pincer les cordes. Et puis on a bien sûr la guitare, évidemment, la guitare qui n'a pas d'archet. Donc nous, ce qui nous relie, c'est qu'on va avoir un archet et qui permet d'avoir un son continue, contrairement à un son pincé qui va s'éteindre de lui-même.
Mais mon petit doigt m'a dit que des fois on peut se passer d'archer. On
Absolument.
Verra ça tout à l'heure plus précisément. Le quatuor Hermione, pourquoi ce nom ? Vous avez un
Alors pourquoi ce nom ? On voulait au tout départ quand on a décidé de travailler ensemble, donc dans les années 2015 à peu près, on cherchait un nom qui représente aussi la région, la Charente-Maritime, la Charente, la Vienne, enfin voilà. Donc on a pensé au nom de Hermione, parce qu'à l'époque on parlait beaucoup aussi de la restauration de ce grand navire du XVIe siècle. Donc voilà.
Celui qui a emmené le marquis de Lafayette, qui a porté un soutien aux insurgés américains pour les libérer ou pour contribuer à les libérer du joug anglais à l'époque, c'est ça ?
Tout à fait.
Mais Hermione, c'est aussi dans la mythologie grecque, la fille de Ménélas et d'Hélène. Et à 9 ans, elle fut abandonnée par sa mère, Hélène, que Paris séduisit. Ah là là. Et puis Hermione Granger, dans Harry Potter, la saga. Et puis j'ai vu aussi que Hermione, c'est le nom d'un rosier. C'est Gentle Hermione. Un rosier anglais. Vous êtes collègue dans un orchestre, c'est ça,
tout
au
à
départ
fait.
Et c'est,
tout
là que,
fait.
C'est de là que vient la constitution du quatuor ?
Tout à fait.
C'est sortir de l'orchestre pour faire de la musique ensemble, tous les quatre ?
Oui, on peut dire ça. On
oui,
peut dire ça.
Oui, tout à fait, on peut dire ça. Ouais.
De quel orchestre s'agit-il ?
Alors, c'est l'orchestre de Chambre Nouvelle-Aquitaine, qui au départ s'appelait Orchestre
Poitou-Charentes,
ouais. Voilà, qui était vraiment constitué... ça fait 40 ans hein, qu'il a été créé cet orchestre. Donc nous on n'y est pas depuis 40 ans, mais depuis quelques années.
Mais quand même.
Mais quand même, depuis quelques décennies. Et du coup, voilà, orchestre de chambre Nouvelle-Aquitaine.
Et vous, en 2015, c'est ça, vous avez décidé de constituer un quatuor. Et ce quatuor se livre à différentes expériences, parce que vous êtes les uns et les autres, ou l'un et les autres. Curieux d'expérience musicale, et puis vous avez par exemple créé des concerts dessinés en collaboration avec un dessinateur, Stéphane Terossian, et notamment sur le thème de l'exil. On pourrait peut-être écouter tout de suite une illustration que vous avez jouée lors de ce concert illustré, et là ça va être interprété par le quatuor Modigliani, c'est le final du quatuor américain. Thank you. Voilà, donc on a entendu le quatuor américain par le quatuor Modigliani, c'est ça? Alors c'est amusant, moi je trouve le nom Modigliani, qui est un peintre, donné à un quatuor, ça vous interpelle, ça vous fait penser à quoi? Quelle réaction vous avez à ça?
Je pense que trouver un nom de quatuor, c'est vraiment aussi peut-être afficher une identité du quatuor. Et puis, je crois que même, ça me faisait penser à ça tout à l'heure quand vous parliez du nom Hermione. Parce que finalement, effectivement, nous, on pensait dans un premier temps à la frégate. Mais en fait, effectivement, les gens, peut-être que ça va les faire plus rêver de penser simplement à un joli prénom, etc.
Et puis, chacun voit midi à sa porte.
Oui,
c'est très
tout à
bien.
Fait. Et donc, plus le prénom amène aux rêves, je pense, et plus c'est riche. Donc, Modigliani, c'est vrai que pour... ce peintre, ça doit amener des images très différentes suivant les personnes.
Des touches de couleurs musicales, finalement, absolument, on pourrait dire. C'est ça. Alors, ce que vous n'avez pas vu, auditrice, auditeur, moi j'ai le privilège de voir, c'est les réactions des instrumentistes qui sont en face de moi quand ils ne jouent pas. Et croyez-moi, dans leur tête, ils jouent, ça se voit. Parce qu'ils réagissent, avec le regard, avec un geste, presque un mime, finalement. Vous avez aussi conçu un concert cuisiné. C'est pas encore tout à fait l'heure, mais j'ai presque faim en lisant ça. Qu'est-ce que ça veut dire?
Alors, en fait, je reviens deux minutes sur le concert dessiné, parce que c'est vrai que nous sommes dans la capitale de la bande dessinée nous avons eu l'occasion d'assister à des concerts pendant le festival de la BD notamment, mais plutôt avec des groupes de musiques actuelles. Et c'est vrai qu'en musique classique, ça ne se faisait pas. Donc, il y a quelques années, on a rencontré Stéphane Taurossian qui était partant, parce que c'est pas évident d'oser, en fait, dessiner, créer en même temps que la musique, selon ce que la musique inspire.
C'est-à-dire que le principe, c'est vous jouez quelque chose, et l'artiste, dessinateur, illustrateur, dessine
en fonction de ce qu'il ressent, ce que la musique lui inspire, son crayon dessine ce qu'il veut. Et donc, c'est vrai que ce sont des concerts, on a eu l'occasion d'en faire plusieurs, et ça a toujours eu beaucoup de succès. Et on a développé, en fait, on a élargi ce concept avec un concert cuisinier, puisque nous avons un ami qui était chef étoilé, Nicolas Thomas, dans le sud de la France, et qui était à l'origine violoncelliste. Donc la musique, il connaissait très très bien, et il était partant pour faire un concert. Donc on a fait sur la scène de l'espace Franquin un concert de quatuor, avec Stéphane qui dessinait en direct, et Nicolas qui préparait aussi des plats en direct en fonction de ce que la musique lui inspirait. On était
c'était pas dans le même festival ou c'était encore dans le même festival
c'était
ou c'était un autre
dans le festival des gastronomades.
Oui, voilà, c'est bien ce qui me semblait. Et vous avez notamment, pardon,
je voulais juste préciser une chose, le quatuor américain qu'on a écouté tout à l'heure, c'était du compositeur Antonin Dvorak. Voilà. Et en fait, sur ce thème-là, le premier concert dessiné qu'on avait fait, on avait fait aussi sur le thème de l'exil, avec les compositeurs qui avaient pu s'exiler pour différentes raisons, parfois volontairement, parfois de manière contrainte. Et donc ça avait aussi pas mal inspiré Stéphane dans ses dessins. Voilà, c'est une précision.
Et je reviens au concert dessiné et cuisiné finalement. Il était les deux à la fois, c'est ça?
Tout à fait.
Vous avez là joué notamment le premier mouvement du quatuor de Debussy.
Oui.
Et on va l'écouter, si vous voulez bien, par le quatuor Ébène, enfin en tout cas un extrait. Extrait du premier mouvement du quatuor de Debussy par le quatuor Ébène, et puis voici ce qu'en disait un critique il y a quelques années déjà. Voici une œuvre étonnamment moderne pour son temps. Le quatuor ébène en livre une interprétation très habitée. Le premier mouvement est fougueux et sensuel, ponctué de frémissements. Quand on écoute et quand on lit la partition, on voit que le compositeur il a noté animé et décidé. C'est une indication pour des instrumentistes, ça ? Qu'est-ce que ça veut dire ?
Je crois que toutes les indications qui sont marquées sur les partitions, et ce ne sont pas toujours les mêmes suivant les époques. On verra peut-être tout à l'heure qu'on joue des musiques de différentes époques, c'est important. Et donc c'est vrai que c'est toujours pareil, je crois que ça sollicite aussi l'imagination du musicien. Donc décider, ben, je pense que ça parle à tout le monde, et ça fait vraiment partie de notre travail aussi, de se mettre d'accord sur ce que ça veut dire décider. Donc je ne vais pas vous en livrer une interprétation là tout de suite. C'est vraiment ce qui fait partie de notre travail en fait, de se mettre d'accord sur ce qu'on ressent par rapport à la fois la musique qu'on a envie de jouer et à la fois les indications du compositeur. Je crois que c'est un savant mélange entre ces différentes dispositions. Donc voilà.
Donc on peut avoir différentes interprétations alors finalement.
Ben oui, tout l'intérêt. C'est pour ça qu'il y a tellement de nombreux quatuors qui donnent de très bonnes interprétations d'une même œuvre et différentes.
Alors, concert dessiné, concert cuisiné et dessiné. Et puis, vous avez à cœur de sensibiliser la jeunesse à la musique, j'imagine.
Oui, bien sûr. En plus, nous sommes enseignants, donc on côtoie les élèves tous les jours, les jeunes tous les jours. Et c'est vrai que cette formation de quatuor nous permet de nous déplacer, d'aller dans des écoles, dans des collèges, dans des lycées, et puis de mener des actions de médiation auprès des jeunes pour leur faire découvrir les instruments et la musique classique que nous jouons.
Alors comment ça se passe ? Vous arrivez, vous jouez tout de suite ou il y a une préparation avant ?
Ça dépend des projets. Alors c'est vrai qu'on a Anne-Marie Hainaut dont c'est le métier en fait de faire le lien entre les musiciens et les écoles. Donc souvent elle fait un travail en amont avec les directeurs ou les professeurs des écoles pour expliquer ce que nous allons venir faire et puis nous mettre en lien en fait avec eux.
Et c'est, donc vous disiez, c'est important je crois, des écoles, des collèges et des lycées, donc les élèves de tous les âges finalement.
Tout à fait, les élèves de tous les âges. Et puis nous allons aussi à la rencontre des personnes plus âgées, dans les EHPAD. Nous avons joué aussi dans des hôpitaux. Et nous avons mené un concert assez émouvant, pour ma part, j'en garde un souvenir émouvant, puisque c'était pour des malades d'Alzheimer et leurs accompagnants, leurs aidants. Et on avait passé un moment vraiment riche, parce que la musique, maintenant c'est prouvé par toutes les recherches qui sont faites en neurosciences, la musique éveille les souvenirs, même parmi les malades d'Alzheimer, en fait, ils ont des souvenirs musicaux liés à ça, et c'était vraiment... Oui, intéressant.
C'était vraiment une écoute très très particulière de la part de ces personnes et qui était effectivement, comme le dit très bien Cécile, très très émouvante pour nous.
Avec des réactions physiques, des réactions de mimique, de gestes,
oui,
je ne sais pas.
Par exemple. Et puis aussi, après, il y a une interaction, si on peut dire, avec ces personnes-là, et donc les malades. Et aussi les accompagnants, et ils ont eu des demandes particulières à nous adresser, qui nous ont parfois un peu surprises, mais auxquelles on s'est plié le mieux possible.
Il y avait un monsieur qui avait en particulier, il avait un souvenir de la tonalité Do dièse mineur. Et plusieurs fois, il nous a dit, et quand est-ce que vous jouez quelque chose en Do dièse mineur ? Et c'était vraiment assez rigolo.
Comme un leitmotiv qui s'était inscrit.
Voilà, c'est ça. C'était vraiment. Et à la fin, on a improvisé un petit extrait de Carmen en Do dièse mineur. Voilà, c'était assez rigolo.
C'est fantastique comme les retours et comme échange, je trouve en tout cas. Vous êtes bien sur RDC pour Donnez-nous vos notes. Sur RDC 93.4 et 92.5 pour la région de Saintes, nous recevons aujourd'hui le quatuor ébène. Alors on a parlé des concerts un peu partout. Le quatuor ébène sera pour une autre fois, excusez-moi. Le quatuor Hermione, qui, c'est parce qu'on vient d'écouter le quatuor ébène, c'est sûrement pour ça, vous voyez, qui nous parle de son action musicale auprès des différents publics, des expériences musicales diverses et variées, toutes très riches, et qui joue bien sûr dans le cadre de concerts qu'on appelle tout public, en soirée ou lors de festivals. Et là, il va se passer quelque chose d'important parce qu'ils vont nous jouer quelque chose en direct. Et ce quelque chose, qu'est-ce que c'est ?
Alors c'est un arrangement, alors en plus aujourd'hui on est trois, d'habitude on le joue vraiment à quatre, là donc on va vous le jouer à trois, mais donc c'est un arrangement de Ukaili de Kurt Weill. Voilà, nous allons vous interpréter.
Alors au violon, à l'alto, au violoncelle. Voici un extrait d'un quatuor à trois qui s'appelle Yukali. Salut la quatrième qui est avec nous par la pensée, avec vous surtout par la pensée, et qui, quand elle vous entendra, s'entendra certainement, même si elle n'est pas là, dans ce qui restera de cette émission. C'était donc un extrait de Yukali, c'est ça ?
Oui, c'est ça.
J'ai eu le privilège de voir et d'entendre les instruments, et les auditeurs ont forcément entendu, les auditrices aussi d'ailleurs, différentes façons de jouer, non ? En fait, il y a une mélodie qui était peut-être au violon de temps en temps, c'est ça ? Une mélodie en écho ou en réponse ou en dialogue avec l'alto. Et
voilà,
le violoncelle, il jouait de différentes façons, je crois, c'est ça ? Peut-être qu'on peut entendre un petit bout de la mélodie, Cécile ?
Oui, tout à fait.
Violon, au violon ?
Oui.
Et alors l'alto ?
Alors l'alto, l'alto c'est vraiment l'instrument qui est au milieu. C'est vraiment l'instrument du milieu. Donc soit il fait les accompagnements vraiment du centre, on va dire, de la musique, si on peut dire. Soit il joue avec le violoncelle aussi, parfois des basses. Soit des fois il est avec le violon qu'il double.
C'est l'instrument à tout faire alors ?
Absolument, c'est l'instrument à tout faire. Je fais de la pub un peu pour l'instrument.
Oui, je comprends. Et alors, par exemple, dans cette œuvre-là.
On peut peut-être jouer la mesure, partir à la mesure 8, Cécile, tu vois, on est un petit peu. On joue finalement la même musique, mais pas vraiment.
Alors, violon et alto ensemble, c'est ça ?
Mesure 8 ?
Oui.
Ok.
L'exemple, il se dissocie un petit peu et il va rejoindre plus les voix du violoncelle qui accompagnent en faisant simplement soit des tenues ou alors des rythmes. Voilà, qui se tient. tiennent la mélodie en général.
Et ça va nous faire le lien avec le violoncelle.
Absolument.
Alors le violoncelle, il joue de différentes
alors,
façons.
Alors le violoncelle, il joue... Alors il y a une particularité dans ce morceau, dans l'arrangement qu'on a fait.
C'est arrangement, excusez-moi. Je ne sais pas ce que c'est qu'un arrangement.
Alors, arrangement, c'est... en fait, le compositeur Yukali, il a écrit une mélodie qui est chantée. Donc là, elle est chantée au violon. Hein, donc on n'a pas les paroles, ça change un petit peu, évidemment. Et puis, il a écrit d'abord un accompagnement au piano. Et puis après, il a pu aussi modifier et faire une version orchestrale. Et donc, nous, on a fait une version à quatre voix.
Une œuvre peut être entendue de différentes façons,
différentes
formations instrumentales. On
voilà,
va dire,
tout à
ça
fait, tout à fait. Et donc, le violoncelle, dans notre version, il joue la basse, c'est-à-dire la main gauche du piano. Et les différentes façons, c'est que on a choisi de faire une fois avec l'archet et une fois en pizz. Alors, je vais vous montrer les deux différentes...
En pizz.
Alors, voilà, pizzicati, c'est qu'on va pincer la corde, justement, qu'on va se passer de l'archet. On va se passer de l'archet. Donc, je vais vous montrer les deux versions. Oh, je ne vais pas préciser, vous allez entendre. Voilà, ça c'est au début. Et puis il y a un autre moment.
Donc là on était en pizz, c'est ça comme vous avez dit tout à l'heure.
Voilà.
Finalement violoncelle, comme le violon, comme l'alto, peuvent être aussi des instruments à cordes pincées alors.
Tout à fait.
Quelle richesse et quelle diversité. Cécile, quand vous nous parlez du répertoire pour la formation, pour le quatuor, vous nous dites que c'est vaste.
Oui,
c'est ça.
Oui.
C'est-à-dire.
Mais on a énormément de compositeurs au fil des siècles, depuis le 17e siècle, qui ont écrit pour la formation du quatuor à cordes. Et encore maintenant, des compositeurs vivants écrivent pour quatuor à cordes, donc de la musique dite contemporaine. Et c'est vraiment une chance de pouvoir explorer tous ces siècles à travers la formation du quatuor. Et voilà, le fait de faire partie d'un quatuor aussi pour nous, ça nécessite un mode de jeu différent de celui de musicien d'orchestre, puisque là, chaque musicien en fait est soliste et il contribue à faire sonner le quatuor comme une entité. Nous sommes quatre, mais le but c'est vraiment de faire sonner nos quatre instruments en un seul. Et voilà, j'aime le quatuor. C'est vraiment une activité artistique complémentaire pour moi.
Et donc, je reprends la formule de tout à l'heure, se mettre d'accord, c'est ça, hein?
Oui, se mettre d'accord, tout à fait, oui.
J'aime beaucoup cette formule parce qu'elle est à double sens, au moins, se mettre d'accord.
Absolument.
Mais et se remettre les bons accords.
Accords aussi.
C'est ça, tout à fait.
Ah, Christine Hélène nous dit que le quatuor est une formation emblématique, c'est ça?
Ben oui, c'est ça, emblématique. Donc, emblématique parce que pour beaucoup de compositeurs, vraiment, j'en parlais un petit peu en début d'émission, c'est vrai que c'est une formation qui sonne très très bien, c'est-à-dire bon, la production du son est faite évidemment de la même façon, on frotte les cordes avec nos archets, et donc ça fait que c'est quelque chose d'extrêmement équilibré. Et c'est vrai qu'au fil des siècles, tous les compositeurs les plus importants se sont emparés de cette formation pour s'exprimer.
C'est dû à quoi ? Il y a une explication ou pas ?
Ben, un peu ce que je disais avant, c'est-à-dire que vraiment c'est très équilibré au niveau de l'harmonie. Donc l'harmonie, je ne sais pas si on peut expliquer facilement ce que c'est. J'ai un peu essayé tout à l'heure, je ne sais pas si c'est très clair pour nos auditeurs. Mais en tout cas, les notes en musique sont superposées. On a un peu détaillé ça tout à l'heure quand Jacques jouait les basses et moi le médium et Cécile les aigus. Et donc quand il y a quatre sons qui se superposent, peut-être que ça, c'est vraiment la quintessence de la musique. C'est-à-dire qu'on peut en saisir vraiment tout l'équilibre. Et en fait, les compositeurs, ça les a beaucoup inspirés.
On peut avoir des quatuors autres que des quatuors à cordes.
Oui, mais on a des quatuors de saxophone, on a des quatuors de flûte à bec, on a des quatuors vraiment de tous les instruments.
Puis les voix dans un chœur aussi,
par exemple,
soprano, alto, ténor, basse. Et Catherine, elle aurait pu nous dire qu'elle a exploré le répertoire de soliste longtemps, c'est ça?
Oui. Alors Catherine, lors de ses études, elle a eu l'occasion de jouer beaucoup en tant que soliste. Elle a fait de la sonate aussi. Alors la sonate, c'est des œuvres qui sont écrites pour deux instruments, par exemple violon et piano. Elle a fait du trio. Voilà, elle a fait beaucoup de musique de chambre. Et elle aime le quatuor aussi, évidemment, puisqu'elle en fait partie. Et parce qu'elle se représente ça comme un espace de liberté quant au choix des programmes, et que c'est un espace de débat, d'échange sur des sujets d'interprétation musicale, et un espace de rencontre et d'échange aussi avec le public.
Et la liberté, certes, mais la liberté avec des contraintes consenties et partagées quand même, puisque je reviens à ce que vous disiez avant, vous mettre d'accord pour interpréter quelque œuvre que ce soit, c'est ça ?
tout à fait.
Alors, deux violons, un alto, un violoncelle, et parfois il y a des instruments invités.
Oui, 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 on a des amis qui ont envie de venir jouer avec nous. Ça fait un peu enfantin oui, de dire ça. Est-ce qu'on peut venir jouer avec vous? Donc oui. Oui, parce que au quatuor peuvent se rajouter par exemple un piano. Donc nous avons un collègue et ami pianiste qui a souhaité jouer lors de concerts le quintet avec piano, donc pour quatuor à cordes et piano de Brahms par exemple.
Alors nous allons en écouter un extrait tout de suite. Voici le quintet avec piano de Brahms par le quatuor Belchia et Till Fellner au piano. Alors, quatuor, Hermione, violon, violoncelle, alto, comment êtes-vous devenu instrumentiste les uns ou les unes et l'autre pour aujourd'hui? Qui commence? Qui se jette à l'eau?
Alors, on a des parcours évidemment très personnels, très différents. Pour ma part, moi j'ai commencé la musique avec mon grand-père qui était musicien, il était mineur dans le nord de la France, et la musique dans le nord de la France...
La grande tradition.
La grande tradition des harmonies, mais bon, j'ai pas fait un instrument avant, mais voilà, la musique je l'ai commencé comme ça au sein de ma famille, et puis ça m'a toujours plu, et j'ai très vite voulu en faire mon métier, j'avais vraiment envie de continuer, voilà, donc j'ai tout fait pour y arriver, voilà.
Et vous êtes arrivé au bout de vos rêves alors?
Oh bah oui, là vraiment je suis comblée avec justement cette possibilité d'enseigner, de transmettre, d'enseigner, de jouer au sein d'un orchestre, parce que voilà, ce sont des sensations.
C'est important la transmission?
Oui, 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 ça fait partie de. Oui, oui. Moi je trouve que c'est bien sûr important. Et je suis toujours étonnée à chaque rentrée d'ailleurs scolaire, je suis surprise, agréablement surprise, qu'il y ait autant d'enfants qui encore au XXIe siècle aient envie de pratiquer un instrument. Du XVIe siècle finalement, donc avec toutes les contraintes que ça demande, voilà, la pratique journalière, quotidienne, mais ça apporte tellement de plaisir aussi que voilà, moi je suis toujours ravie.
Merci. Comment on devient altiste?
Ah, comment on devient altiste, ça c'est toujours une... je pense qu'il y a une multiple façon de devenir altiste. Alors pour ma part, en fait, moi c'est mon père qui était musicien amateur, il était saxophoniste. Et donc lui n'avait pas eu la chance de faire le conservatoire, et donc il voulait que ses enfants aillent tous au conservatoire. Donc on n'a pas eu le choix, en fait, il nous a tous inscrits les uns après les autres, avec différents bonheurs, on va dire, parce qu'on est 2 sur 4 à être musicien professionnel.
Et l'autre, c'est aussi de l'alto?
Non, pas du tout, l'autre, il est percussionniste. Il fait plutôt de la musique actuelle, en fait. Et aussi guitariste, en fait, c'est quelqu'un qui est assez riche et qui fait vraiment beaucoup
parcours
de...
Parcours éclectique.
Oui, parcours très éclectique. Voilà, et donc moi j'ai fait le conservatoire avec... vraiment de façon extrêmement, on va dire, dilettante pendant assez longtemps, finalement. Et puis l'alto, c'était pas mon premier choix, mais l'instrument me convenait assez bien. Et puis ensuite...
Alors c'est ça qui me semble toujours important à dire, et là, j'entends avec surprise, hein.
Oui.
Cet instrument n'était pas mon premier choix, mais finalement, il me correspond. Vous vous êtes rencontrés comment, alors, avec cet instrument?
Alors, pour tout vous dire, moi, je voulais faire de la flûte, parce qu'un de mes grands frères faisait de la flûte, et j'étais complètement en amour devant ce grand frère qui joue magnifiquement de la flûte. Et donc, je voulais faire comme lui, tout simplement. Et donc, sauf que la flûte, à l'époque, et peut-être encore maintenant, est un instrument extrêmement demandé. Et donc, il n'y avait plus vraiment de place. Et puis, à l'époque, j'étais aussi assez grande, physiquement. Et donc, les altistes ont couru un petit peu après, il n'y en avait pas. Et donc, ils ont proposé que je fasse de l'alto. Donc, je n'avais jamais entendu parler. Et donc je suis aussi, moi, tombée un petit peu en amour avec le professeur qui était un monsieur absolument charmant et adorable. Et du coup, ça a très bien fonctionné. Tant qu'il est resté, après il est parti. Enfin, je ne vais pas vous raconter toute ma vie, parce que je pense que ça lasserait tout le monde. Mais
non plus. Mais dans la transmission, je reviens sur ce qu'on disait avec Cécile il y a quelques, minutes l'importance de l'enseignant ou de l'enseignante.
Hein, bah ça, oui, c'est vraiment ça que je pensais quand vous parlez ça. C'était pas vraiment pour raconter toutes mes petites histoires personnelles, mais c'est vrai que l'instrument est très déterminant dans le choix des enfants finalement. Je pense qu'ils choisissent autant l'instrument que la personne qu'ils ont en face. Mmh. Et comme on n'enseigne que ce qu'on est, bien écoutez, voilà.
On n'enseigne pas ce qu'on sait, on enseigne ce qu'on est. C'est une formule dite par Alain, notamment un philosophe. Jacques, violoncelle, comment on devient violoncelliste?
On devient violoncelliste. Alors moi j'avais des parents qui étaient très mélomanes, mais pas du tout musiciens, qui écoutaient beaucoup de musique classique à la maison, des opéras, de la musique de chambre, voilà, et puis qui nous ont emmenés au concert. Et moi j'ai vraiment aimé le son du violoncelle et j'ai commencé relativement tard en fait, mais il y avait un moment il y avait un moment je voulais vraiment faire du violoncelle, puis ça se faisait pas, voilà, c'était compliqué d'organisation, puis finalement j'ai pu aller au conservatoire et j'ai eu aussi un professeur, puisqu'on parlait de la transmission, très dynamique pour commencer, et j'ai tout de suite vraiment je me suis donné à fond tout de suite, quoi. Et
vous avez accroché tout de suite.
Alors après, j'étais pas sûr de devenir musicien professionnel. Ça a pris un certain temps, quoi, avant de vraiment se décider. Mais par contre, une fois que je l'ai décidé, j'ai été aussi assez rapidement dans la transmission. C'est-à-dire que j'ai eu des élèves assez jeunes, assez rapidement. Et puis, dans des petites écoles associatives. Et voilà, et la transmission m'a aussi beaucoup intéressé.
Donc vous avez les uns et les autres peut-être enseigné dans différents endroits, c'est
oui,
ça ?
Oui, dans différents endroits.
Dans différentes régions peut-être ?
Oui, tout à fait, avant d'être dans les conservatoires où nous sommes actuellement.
D'accord. Le répertoire d'un quatuor, vous disiez tout à l'heure que c'était très riche, mais comment vous choisissez, vous, de jouer telle ou telle pièce en tant que quatuor Hermione ? Comment ça se passe ?
Alors ça dépend du concert que l'on va faire, donc... tout à l'heure je vous parlais des concerts dans les écoles, donc là typiquement on travaille avec la médiatrice pour construire un programme en lien avec ce que les enfants étudient avec leur professeur de musique ou alors ce qu'on est en train de faire à l'orchestre aussi pour faire un travail de médiation lorsqu'ils viennent au concert d'orchestre. Les concerts dessinés, donc on avait choisi un thème autour de l'exil, donc là on a fait des recherches sur des compositeurs qui avaient écrit des quatuors et qui avaient donc, comme le disait Jacques tout à l'heure, subi l'exil contraint ou choisi. Voilà, ou quand un collègue a envie de venir jouer avec nous, pareil, on fait des recherches sur le répertoire qui existe en fonction de son instrument.
Donc vous avez joué des quatuors, j'imagine, de Mendelssohn, de Beethoven, de Schumann, de Mozart. Et puis, si on reprend Mendelssohn, vous avez notamment joué le deuxième quatuor de Mendelssohn, c'est ça ?
Oui, tout à fait. Et c'est vrai que des fois, ce sont des choix aussi personnels. On peut avoir une envie personnelle et puis on propose aux collègues, on dit, oh, bah, tiens, oui, j'ai écouté celui-là en concert ou en disque ou à la radio, par exemple sur la radio de diffusion charentaise.
Pourquoi pas.
Et du coup, on peut être inspiré comme ça et on propose aux collègues et puis si ça matche, on fait ce choix pour un prochain concert.
Alors voici donc un extrait du deuxième quatuor à cordes de Mendelssohn, et c'est interprété par le quatuor Mona, un ensemble composé de 4 femmes, un enregistrement de février 2022. C'est finalement tout récent pour une radio nationale française qui s'occupe beaucoup de musique. Et voici le quatuor Mona. C'était le quatuor Mona. Nous avons entendu depuis le début de notre émission plusieurs quatuors et nous recevons aujourd'hui un quatuor qui s'appelle le quatuor. Ah, au fait, ben, comment s'appelle-t-il ce quatuor? C'est le jeu qui vous est proposé, auditrices et auditeurs. Donc pour trouver la réponse, évidemment, il faut avoir suivi l'émission, mais je n'en doute pas que vous puissiez trouver rapidement le nom du quatuor talentueux que nous recevons aujourd'hui. Et pour trouver la réponse, ben, il faut revenir peut-être dans ses souvenirs, et puis il faut appeler 05 45 95 09 87 pour transmettre votre réponse. Quel est le nom du quatuor qui aujourd'hui est invité de l'émission Donnez-nous vos notes sur RDC? A gagner un CD et une invitation à participer à une prochaine émission de la série Donnez-nous vos notes pour voir comment ça se passe de l'intérieur sur l'antenne de RDC 93.4 92.5. Donnez-nous vos notes, c'est sur RDC. Voilà, on vous attend nombreuses et nombreux pour participer au jeu. Quel est le nom du quatuor que nous recevons aujourd'hui dans Donnez-nous vos notes sur RDC? Alors, vous parliez tout à l'heure d'un répertoire défini autour d'un thème, d'une thématique, et vous faisiez allusion à l'exil. L'exil, c'est un sujet important, grave, comment dire, pour les artistes en général, ou c'est quelque chose qui est fugitif?
Ah, l'exil, à l'époque, on a imaginé ce concert. C'est vrai que c'était une question qui était une question d'actualité et qui nous touchait particulièrement. Et donc c'est vrai qu'on a eu envie de parler aussi de l'exil, mais d'une façon assez large, c'est-à-dire à la fois l'exil subi, mais aussi l'exil choisi, parce qu'il y a différentes sortes d'exil. Et donc on a commencé à réfléchir à tous les compositeurs qui, de près ou de loin, avaient un rapport avec ce thème. Et on s'est rendu compte qu'il y avait énormément de compositeurs qui avaient un rapport avec ce thème, parce que les compositeurs à toutes les époques ont souvent été des gens qui ont beaucoup voyagé. Alors des fois de façon choisie, comme Dvorak qu'on écoutait peut-être en début d'émission, mais parfois de façon un peu plus contrainte, comme Chopin par exemple, ou peut-être d'autres compositeurs
Bartok.
Voilà, et donc on a tout de suite vu qu'on pouvait construire un programme musicalement assez riche et assez diversifié. Et puis il y a aussi tout de suite eu, je crois, le lien avec Stéphane Torossian, dont Cécile.
Donc c'est le dessinateur dont on parlait tout à l'heure, l'illustrateur.
Stéphane Torossian, qui est d'origine arménienne, ouais, et dont les grands-parents ont dû s'exiler, bien sûr, dans les années 1915-1920, pour fuir ce qu'on appelle maintenant le génocide arménien.
Mm-hmm. Mais c'est aussi le voyage, exil ou pas, la rencontre de l'autre, c'est un enrichissement. Enfin, ça peut, non? Un échange?
Absolument, c'est vrai que culturellement, enfin, toutes les cultures peuvent se croiser, et même si c'est parfois dramatique, évidemment les migrations ne sont pas toujours évidentes, hein, elles sont souvent contraintes, enfin, il y a beaucoup de choses, et c'est vrai que c'est toujours d'actualité, malheureusement, il peut y avoir beaucoup de souffrance aussi dans tout exil, dans tout déplacement, mais le voyage c'est aussi un enrichissement et c'est aussi un partage de différentes cultures, et voilà, c'est tout ce sujet là qui nous intéressait dans cette thématique.
Quelle que soit l'époque, quel que soit le lieu, on peut parler de Lully, parce que Lully, on parle de lui comme un musicien de la cour française, certes, son époque, mais était-il français lui à l'origine? J'en suis pas très sûr, même si ça s'écrit L-U-2-L-Y. Mais il avait imposé finalement un goût italien à la cour de Louis XIV. Et puis beaucoup plus tard, c'est Stravinsky, dont les nombreux lieux d'exil ne feront que renforcer le langage propre, le langage musical, et ceci malgré les nombreux styles que son œuvre donne à entendre. Et on écoutait une, en tout cas un extrait, de Stravinsky, le deuxième des trois pièces pour quatuor à cordes. Et c'est le quatuor Alban Berg qui nous le présente. Dans l'histoire musicale, là on a des sons que moi je vais qualifier de surprenants, d'étranges, non? Comment on pourrait commenter ça?
Oui, ben justement, tout à l'heure, quand Christine parlait d'harmonie, là, on entend que Stravinsky n'utilise pas d'harmonie. Il casse les harmonies, là, et il compose une œuvre basée sur les différents modes de jeu. Attendez,
les modes de jeu.
Oui, je vous explique.
Ah, bon, merci.
Donc, les pizzicati, donc les pizzes que Jacques vous avait fait entendre en pinçant la corde, donc là, c'est très utilisé. Les harmoniques. Alors, les harmoniques, Christine va vous en faire entendre quelques-unes. Ce sont des sons qui sont produits en effleurant la corde avec les doigts et non pas en enfonçant les doigts dans la corde.
Ça produit des sons très très aigus, hein,
c'est très ce qu'on entend. Ouais,
très flûté, très
même si l'alto peut être, j'ai compris, dans ce que vous avez dit, grave, aigu, mais ici on avait vraiment des harmoniques dans les
tout
aigus
fait,
finalement.
Hein,
d'accord. On peut avoir, j'imagine, des harmoniques avec le violoncelle, avec le violon, avec tous les, oui. avec tous les instruments dont vous jouez notamment, et sûrement avec d'autres, non?
Oui, les harmoniques, ça peut être joué aussi à la guitare, hein, on peut faire des harmoniques, à la harpe aussi. C'est-à-dire que pour les harmoniques, il faut trouver un endroit de la corde très particulier. Déjà sur les cordes que nous avons, en général, nos instruments à cordes frottées, on n'a pas de repères. Il faut, donc c'est pour ça que c'est un travail très très long pour réussir à placer la justesse des notes. Mais pour les harmoniques, c'est encore particulier, c'est-à-dire c'est une division de la corde qui est très précise et qui est très mathématique. Juste un exemple, pour faire une octave, il faut diviser la corde en deux. C'est pile au milieu de la corde qu'on va, en effleurant la corde...
Diviser la corde en deux, c'est-à-dire...
On appuie la corde vraiment au milieu de la corde, et ça va jouer l'octave au-dessus. C'est-à-dire la fréquence doublée.
C'est mathématique et c'est physique en même temps, finalement.
Absolument.
Musique, mathématique, oui, physique, tout ça, c'est très lié pour faire, tiens, je vais oser, une espèce d'alchimie, finalement, au final. Quand un compositeur arrive dans un pays, parfois, il donne sa vision, sa perception de la culture d'un pays et du pays qui l'accueille. L'exemple, c'est Dvorak. On entendait le quatuor américain tout à l'heure, dont nous avons... apprécier l'extrait proposé. Voici un second extrait de cette œuvre, une toute autre tonalité, une toute autre ambiance, si je puis dire, que le premier. C'est un autre extrait américain, et cette fois c'est le quatuor Mona, mais qui change de répertoire en jouant quand même la même œuvre d'ambiance. C'est autre chose. Voici donc le lento. Donc vous imaginez bien qu'avec ce mot-là, ça ne peut pas être quelque chose qui, entre guillemets, remue et qui bouge beaucoup. Lento, donc c'est quelque chose de très lent, de très calme, de très souple et ample, j'ai envie de dire. Parlons de Piazzolla. Piazzolla, c'est quelqu'un qui a connu plusieurs pays, plusieurs continents, c'est ça? Et sans pouvoir abandonner sa propre culture, il a inventé le Nuevo Tango. Qu'est-ce que c'est que le Nuevo Tango? C'est une rencontre entre... Comment on pourrait préciser, expliquer ça?
Alors, Piazzolla, c'est un compositeur argentin, donc il est vraiment... Il a baigné dans la culture argentine, avec le tango qui était une danse vraiment populaire. Et en fait, il était tout à fait intéressé par la musique savante, et il est venu étudier à Paris, notamment avec Nadia Boulanger. Et il voulait essayer de faire vraiment il voulait être compositeur comme Beethoven ou Debussy. Enfin voilà, il cherchait. Et en fait, au bout d'un moment, Nadia Boulanger lui a dit « Mais il faut que tu fasses vraiment la musique, moi j'entends trop de copies là, c'est pas ta musique personnelle. Et il a vraiment réussi à trouver quelque chose de personnel. Et donc le Nuevo Tango, c'était un groupe qu'il a créé, voilà. Et il a vraiment réinventé en fait
un
le tango argentin.
Un groupe et un style finalement.
Oui, un groupe et un style.
Les deux. Voilà. Le tango tout neuf, quoi, voilà. On pourrait traduire. Voilà. Le néo-tango, je ne sais pas comment le dire. On refait un bond dans l'histoire, on revient avec Lully. Dans les œuvres que vous jouez, il y a l'ouverture de L'amour médecin, c'est ça ? La chaconne des morts. Qu'est-ce que c'est qu'une chaconne ?
Alors la chaconne, donc c'est une pièce musicale qui est apparue vers la fin du XVIe siècle. C'est une chanson populaire à danser et à trois temps, donc d'un caractère assez énergique, assez vif. Qui est originaire d'Amérique et qui a été introduite en Espagne par les marins. Voilà, et en fait, la chaconne a perduré au fil des siècles et beaucoup de compositeurs ont écrit des chaconnes.
Dont Lully, c'est ça ?
Dont Lully.
Et puis vous avez donc interprété, ou vous interprétez encore sûrement, une transcription ?
Oui, tout à fait.
Alors
oui.
Qu'est-ce que c'est qu'une transcription ?
Alors une transcription, c'est prendre un morceau tel qu'il a été composé à l'origine par le compositeur et attribuer toutes les parties à nos quatre instruments, donc, et voilà, le réécrire pour les instruments qui...
Oui, c'est un arrangement, donc, comme on a montré tout à l'heure avec l'extrait de Ukali de Courtauld.
Et c'est vous qui écrivez les transcriptions, les arrangements ?
Alors on peut en trouver, des fois on fait les arrangements nous-mêmes, mais il y a beaucoup de compositeurs, d'arrangeurs qui existent et on peut trouver différentes partitions.
Par exemple, le Quatuor Ébène fait beaucoup de transcriptions, mm-hmm. Et voilà, après on peut se servir de leur transcription pour les jouer à nos concerts.
Alors avec La Chaconne des Morts, on parle de l'ouverture de L'amour médecin. L'amour médecin, qu'est-ce que c'est ? C'est une comédie-ballet, c'est ça ? Écrite en prose par Molière sur une musique de Lully. Donc on est à la rencontre entre plusieurs arts, là encore, entre le théâtre, la comédie-ballet, donc la comédie et la danse, et puis la musique. C'est fréquent que les arts se rencontrent à travers l'histoire ?
Alors c'est très fréquent cette époque-là parce que contrairement peut-être à la période actuelle, par exemple, les rois et les reines étaient de très bons danseurs, de très bons musiciens. Alors je ne veux pas présupposer des talents de nos dirigeants actuels, je ne sais pas s'ils sont peut-être très bons danseurs ou pas. Mais en tout cas, à l'époque, c'était vraiment une qualité en fait recherchée chez les gens. C'est vrai que les arts avaient énormément d'importance pour ces gens-là. Ils les pratiquaient vraiment. Vraiment, par exemple, Henri VIII, le roi d'Angleterre, était très bon musicien. On a encore des compositions qui lui sont prêtées ou attribuées. Et voilà, alors c'est vrai qu'actuellement, nos dirigeants sont un petit peu moins créateurs dans ces domaines-là, en général.
Puis c'est une comédie hein, de Molière, ici. Donc, c'est le riche bourgeois qui est veuf, ambitieux, égoïste, qui refuse de marier sa fille. Et puis, par des moyens plus ou moins directs ou détournés, finalement, il sera mis devant pratiquement le fait accompli et devra même s'acquitter de la dot. De la dot pour accompagner le mariage de sa fille. La chaconne, donc c'est une danse, et peut-être que on pourrait en écouter un extrait. Voici. L'ensemble qu'on entend, c'est pas un quatuor, il y a beaucoup plus d'instruments, c'est ça, c'est une forme d'orchestre, il y a des vents, non, des trompettes, il me semble, ou
oui,
cette famille-là.
Des hautbois, il y a des flûtes, des hautbois, effectivement, donc d'où cette histoire de transcription, c'est-à-dire que d'un ensemble peut-être composé, d'une œuvre composée pour peut-être 15 musiciens, on a supprimé quelques notes, on a retravaillé les parties pour en faire un quatuor.
Et les compositeurs, ils aiment bien que leurs œuvres soient arrangées, transcrites. Alors je parle des compositeurs qui peuvent encore donner leur avis parce qu'ils sont toujours vivants. Mais...
Bah, disons qu'à l'époque, c'était quelque chose d'assez fréquent. C'est-à-dire qu'on composait une œuvre et puis avec beaucoup de chance, elle était jouée comme c'était prévu, on va dire. Et puis finalement, on jouait ça avec les musiciens qui étaient là et qui étaient disponibles. Alors c'est vrai qu'au fil du temps, peut-être que les choses se sont un petit peu plus cristallisées et un petit peu plus précisées. Donc actuellement... Ben, je pense qu'il y a moins de liberté par rapport à ça, mais ça dépend peut-être aussi des esthétiques musicales. Mais effectivement, c'est quand même quelque chose qui se pratique beaucoup.
D'accord. Parlons de Haydn. Haydn, on l'appelle le père de la symphonie. Mais est-ce que ça ne serait pas aussi le père du quatuor? Un de ses quatuors est régulièrement diffusé lors d'événements sportifs internationaux, si on peut dire. Écoutez, voici la mélodie d'une chanson écrite par Haydn, je pense que vous allez reconnaître. C'est bien d'une chanson qu'il s'agit au départ. Cette version-là est interprétée au piano. Et on entend parfois la même chose, ou presque, dans un stade de football ou d'athlétisme à certains moments. Voici ce que ça devient. Et voici ce qui s'est passé entre les deux versions. C'est un quatuor de Haydn, donc, qui est ici interprété par les cordes sensibles, jeu de mots bien sûr, plus précisément un extrait du deuxième mouvement du quatuor opus 76, numéro 3, qu'on appelle le quatuor empereur. Voilà, une même composition, une même musique, dirons-nous, et puis trois versions, finalement. Alors, je ne sais pas laquelle on préfère, laquelle on aime le moins, c'est peut-être pas le lieu de le dire. Allez, moi, je vais vous dire que j'aime bien la troisième, mais peut-être aussi, c'est que j'ai un quatuor en face de moi, donc... Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ces évolutions de l'usage, finalement, et de l'utilisation de la musique à différentes fins?
Moi, je trouve ça vraiment émouvant qu'une musique composée au XVIIIe siècle eh bien, soit toujours interprétée dans un stade de foot. Voilà, enfin, c'est quand même un patrimoine qui se transmet comme ça de pays en pays, de siècle en siècle. Et il faut se continuer à partager ce répertoire. Ouais.
Donc le quatuor Hermione promeut l'ouverture, c'est ça? Et l'abolition des barrières
entre
les différents styles et époques de la musique. La musique de l'hymne allemand, finalement, c'est ça qu'il s'agit. Elle provient d'une chanson donc écrite par Haydn en 1796, c'est de nous le rappeler, à l'occasion de l'anniversaire de l'empereur François II d'Autriche, d'où peut-être le nom du quatuor dit empereur, bien sûr. La mélodie, elle fut ensuite reprise par Haydn dans le deuxième mouvement de son quatuor à cordes, dont nous venons d'entendre un extrait. Voici un autre des quatuors composés par Haydn. Il s'agit du premier mouvement du quatuor opus 77, numéro 1. Et alors, c'est interprété par un quatuor qui s'appelle Eos, Et cette fois, c'est trois hommes et une violoncelliste. Donc c'est comme un écho au quatuor Hermione, puisqu'il y a trois femmes et un violoncelliste. Voici le quatuor opus 77 numéro 1 de Haydn, interprété par le quatuor Eos. Dans quelques secondes. Le quatuor Eos qui se fait un petit peu attendre. Le voici. Là, c'est aussi donc un extrait d'une œuvre qui est au répertoire du quatuor Hermione, c'est ça ? Avec peut-être un autre compositeur, un autre style encore, Glazounov. Alors qui c'est Glazounov ? J'ai jamais entendu parler de cet homme-là, moi. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire ?
Alexandre Glazounov, c'était un compositeur russe qui a écrit, j'ai plus ses dates exactement, mais 19e siècle. Et voilà, il fait partie de la grande tradition russe, un peu comme un peu la même époque que Saint-Saëns, qui était notre compositeur français fin 19e siècle, qui était très dans la mouvance romantique. On l'a reproché à Camille Saint-Saëns de ne pas être très novateur. C'était un peu le cas de Glazounov. Mais néanmoins, il y a de très belles musiques de ce compositeur-là.
Il a écrit un très beau concerto pour violon, mm-hmm. Glazounov. Et puis on aimait bien...
Excusez-moi, un concerto, comment vous expliquez ça ?
Un concerto, c'est une pièce qui est écrite pour un instrumentiste soliste, donc qui est tout seul, debout, devant un orchestre.
Debout, si c'est un piano.
Oui, c'est vrai, vous avez raison. Les violoncellistes sont assis. Pardon. Cette notion d'être devant l'orchestre et de briller un peu devant l'orchestre qui sert d'accompagnement en fait à ce soliste et de dialogue, enfin voilà, ça c'est un concerto. Oui,
concerto, c'est un mot de la famille de se concerter finalement,
se concerter,
hein. C'est discuter,
échanger.
Et parfois on a même un groupe d'instruments qui fait le concerto, c'est le concerto
tout
grosso,
fait,
c'est ça ?
Oui, ou Beethoven a écrit un concerto, le triple de Beethoven, on dit, donc c'est pour trois instrumentistes, piano, violon, violoncelle.
Qui discutent et entre eux et avec l'orchestre.
Tout à fait.
D'accord. Et alors une novelette.
Alors une novelette, c'est une petite pièce de musique. Et donc Glazounov, on l'avait choisi parce qu'il a écrit des novelettes autour de différents styles. Donc il y a une novelette qui est du style à la hongroise, une novelette à style espagnol, une autre orientale. Enfin voilà, je crois qu'il y en a, je ne sais plus combien il y en a, mais on ne les avait pas toutes jouées.
Non,
mais
on n'a pas toutes jouées.
Il en a écrit 5, je crois. Hein.
D'accord.
Et voici celle que le quatuor Casal a interprétée, en tout cas un extrait. C'est une novelette dans le style ancien. Alors qu'est-ce que ça augure, ça ? J'en sais rien. Écoutons bien. Ancien, ça veut dire que c'est comme dans l'ancien temps, c'est ça ?
Alors le style ancien, c'est un style très ancien, hein, parce que nous on voyage dans les siècles quand on est musicien, qu'interprète ce qu'on appelle la musique écrite ou la musique savante. Donc le style ancien, c'est vraiment plutôt une évocation du 16e, 17e siècle, où le style d'écriture était proche de celui qu'on vient d'entendre. Voilà, donc, et dans l'esprit de Glazounov, ce qui n'engage que lui, bien évidemment.
On est toujours sur la rencontre et la représentation de soi-même et de ce qu'on a construit.
Oui,
ce qu'on
peut retrouver. Style ancien, moi j'entends vraiment Renaissance là, c'est-à-dire vraiment même 15e.
Encore avant.
Allez, on fait encore un bond dans le temps, on revient à Piazzolla avec Oblivion. Alors qu'est-ce que c'est Oblivion? C'est pour un quatuor, et je crois qu'ici on va entendre le quatuor Quisquilia. Quisquilia, ça veut dire babiole en italien, donc c'est un quatuor qui se considère comme une babiole. Oh, c'est un pied de nez, c'est en forme d'humour, parce que quand même, une chose ou un argument sans importance, non, un quatuor, ça ne peut pas correspondre. Il s'agit ici aussi de trois femmes et d'un violoniste. C'est une copie conforme, peut-être, du quatuor Hermione. Voici Oblivion par le quatuor Quisquilia de Piazzolla. Oblivion, Piazzolla, ça a été repris dans un film, hein. C'est l'oubli Oblivion, c'est ça?
C'est vrai.
Et c'est quelqu'un qui perd la mémoire, qui ne se rappelle pas de ce qu'il faisait, qui tombe d'un cheval, etc., etc. Ce programme que vous avez décrit, même si tout n'est pas entendu ce matin par le quatuor Hermione, mais c'est quelque chose qui doit quand même être très apprécié du public, puisque vous vous obligez à rapprocher différentes formes, finalement, la forme qu'on entend, la forme qu'on voit, c'est ça? Et la création d'œuvres picturales en direct, hein, vous le disiez, en lien avec les différents univers musicaux, et puis vous commentez, je suppose, vous expliquez, ou pas?
Alors oui, souvent, mais c'est ce qui se fait de plus en plus, hein, dans les concerts de musique classique, c'est qu'il y a ce qu'on appelle la médiation avec le public, c'est-à-dire qu'on prend de plus en plus la parole, et on présente, ou on explique, ou on donne, simplement ça peut être juste un texte littéraire par exemple, mais c'est vrai que de plus en plus les musiciens qui jouent cette musique savante, cette musique classique, vont à l'encontre du public et prennent le temps d'expliquer ce qu'ils jouent.
On est moins dans notre tour d'ivoire. En fait. Oui. Ça donnait des clés d'écoute pour que les spectateurs, les auditeurs comprennent mieux ce qu'ils sont en train d'écouter.
Alors donner des clés d'écoute, notamment pour le jeune public, mais pas forcément, c'est aussi proposer des jeux d'écoute sûrement. Je suppose que c'est quelque chose auquel vous êtes habitué.
Bien sûr, oui, tout à fait.
Pour les petits, pour les grands, pour les anciens, pour tout le monde.
Pour tout le monde.
Oui, ça fonctionne bien.
Ouais.
Alors peut-être que vous pourriez, s'il vous plaît, nous proposer un jeu pour avoir des clés d'écoute par rapport aux instruments dont vous jouez et que vous avez apporté ce matin. Quel jeu, par exemple?
Alors, on va vous faire entendre distinctement les trois instruments différents, donc que sont le violon, l'alto et le violoncelle. Et puis après, peut-être qu'on vous demandera de les reconnaître.
Ah.
Donc, voici.
On commence par lequel?
Le violon.
Voici le violon. C'était donc Cécile qui interpellait Pierre, dans Pierre et le loup. L'alto.
Donc on va faire à la suite l'alto.
Alors là, j'ose vous demander demander, c'est quelque chose qui vous passe par la tête, c'est quelque chose que vous connaissez.
Voilà, j'étais parti un peu sur le début de l'arpège de Schubert, et puis après j'ai dévié sur autre chose. Voilà.
Schubert et plus si affinité.
Voilà.
Et le violoncelle, Nicolas ? Jacques. Jacques.
Ça, c'était le début de la première sonate de Brahms pour violoncelle et piano.
Aha. Une sonate, c'est quelque chose qui sonne, c'est fait pour discuter,
c'est... Oui, c'est ça, c'est vraiment une discussion. Enfin, ça, il y a plusieurs sens au mot sonate. La forme sonate, c'est une construction voilà, depuis l'époque classique, hein, dont on a parlé de Haydn. Mmh. Vraiment, ça c'est voilà, avec une construction en forme ABA, le thème qui revient. Voilà. Et c'est aussi... une forme de dialogue entre deux instruments.
Ouais. Donc c'est la sonate qui sonne, on a aussi la toccata avec des instruments, on a la touche, un clavier, et puis on a la cantate avec des chants finalement, hein, c'est ça. Et maintenant le jeu, alors qu'est-ce que c'est le jeu? Il faut reconnaître qu'un instrument va jouer, c'est ça?
Allez.
Alors attention, le quatuor Hermione vous propose le jeu de reconnaissance d'instruments, soit le violon, soit l'alto, soit le violoncelle. Auditrice, auditeur, chez vous, nous venons d'entendre le violoncelle, en tout cas, une manière de jouer du violoncelle. Voici un autre instrument, peut-être un nouveau violoncelle, peut-être pas, allez savoir. Encore quelques secondes chez vous de réflexion, d'écoute intérieure, de mémoire. C'était l'alto. Alors vous allez me dire, il ne reste plus que le violon. Sauf si nos instrumentistes du jour sont un peu facétieux et qu'on entend à nouveau un des instruments précédents. Alors voici l'instrument suivant, il faut reconnaître. Que vous avez reconnu avec sa voix grave, le violoncelle. L'instrument suivant, c'est, on ne sait pas, voici. Je trouve très, très étonnant et très touchant, je vous le dis comme je le pense, que des instrumentistes virtuoses comme vous, ça donne des jeux comme ça. C'est pour nous auditeurs et qui découvrons la musique grâce à vous, c'est très important. Je suis sûr que ces trois instruments, on l'a déjà dit tout au long de l'émission, mais on va l'avoir plus précisément présent à l'oreille et à l'œil pour moi. Quel privilège. Et on peut en jouer de différentes manières.
Tout à fait. Alors sur nos partitions, des compositeurs mettent des indications. Par exemple, il nous arrive de voir, alors notamment chez Stravinsky qu'on a écouté tout à l'heure, sur le chevalet. Le chevalet, c'est une petite pièce de bois qui vient supporter en fait les quatre cordes de nos instruments. Et donc jouer sur le chevalet induit ce son. Quelque chose de beaucoup plus métallique en fait.
Là, c'était fait avec le violon, hein, je précise, pour les auditrices et les auditeurs. D'accord. D'autres manières encore?
Il y a une façon de jouer l'instrument qui du coup nous est alors peut-être assez propre, on va dire. Tout à l'heure, Jacques faisait allusion au fait qu'il fallait travailler beaucoup parce que donc nos notes n'étaient pas faites à l'avance comme le piano.
Travailler, les musiciens travaillent.
Eh oui, les musiciens travaillent avec beaucoup de plaisir évidemment. Et donc c'est vrai que nous on a la possibilité en fait de faire ceci. Voilà,
on, on, a
décolle, tout simplement une glissade. Ouais. Et c'est vrai que, par exemple, un instrument avec des touches le fait aussi, mais c'est un petit peu moins, on va dire,
continue,
les sons
forcément.
Sont un petit peu moins continus, un peu moins reliés. Et ça, on en trouve pas mal dans le répertoire, notamment au XXe siècle. Donc c'est assez amusant. Et les enfants aiment beaucoup.
Eh oui, je comprends. Et violoncelle, il pourrait quoi faire ?
Oh ben, on peut s'amuser à faire pas mal de jeux, hein. Et même on peut même faire des bruitages pour des musiques de films. Donc voilà, des fois il peut y avoir.
Ne poussez pas trop les vitesses, sinon parfois on est obligé de freiner en catastrophe, on vient de l'entendre. Il y a parfois écrit pizzicato, hein, on l'a déjà entendu tout à l'heure, mais con legno, moi j'ai vu écrit sur des partitions, qu'est-ce que ça veut dire ça?
Alors con legno, c'est qu'on frappe avec l'archer, au lieu de frotter avec la mèche qui est en crin de cheval, on frappe avec le bois, col legno, le legno, legno en italien c'est le bois. Et donc on fait des sons juste frappés.
Comme par exemple. Donc ça, c'est des choses diverses et variées qu'on peut faire avec chacun des instruments. Et évidemment, on peut imaginer la rencontre entre un instrument qui joue pizzicato, l'autre qui joue avec l'archer, etc., etc. Donc finalement, ça propose une ouverture et un spectre assez large pour les compositeurs, non ?
Oui, complètement.
Et puis, donc, vous disiez tout à l'heure, vous avez des invités, si je peux les appeler comme ça, on a parlé de pianistes tout à l'heure. Parfois, ça peut être la harpe aussi, non ?
Oui, on a eu l'occasion de jouer avec notre collègue Sylvie Bouchetière, qui enseigne la harpe au conservatoire de Poitiers, et qui avait aussi enseigné à Angoulême à une époque, donc nous la connaissions tous les quatre. Et elle fait des journées de la harpe, en fait, en faisant venir des facteurs de harpe. Et on a joué du répertoire, donc pour quatuor et harpe. On a aussi joué avec Alan Kennett, qui est pianiste, et Benoît Végère, qui est altiste. Donc là, on a fait le quatuor est devenu quintette avec un alto supplémentaire.
D'accord. Et pour prévoir et pour arriver à une prestation, vous répétez ou alors vous retrouvez juste le jour du concert ?
Non, on répète. Alors, avec nos emplois du temps, donc de professeurs, de musiciens d'orchestre, on essaye de dégager quand même un peu de temps le plus possible pour se retrouver, soit à Poitiers, soit à Angoulême. À l'approche d'un concert, c'est vrai qu'on essaye de se voir toutes les semaines et voire deux fois par semaine. Cette semaine, on travaille ensemble deux grosses matinées. On a un concert qui approche. Et puis, bien sûr, on a du travail personnel. Chacun de notre côté à effectuer avant ces répétitions.
Finalement, c'est aussi selon les besoins et selon l'avancement des projets. Plus on s'approche du concert, plus il y a une espèce de pression qui s'installe, non ?
Oui, de pression, et puis aussi, je crois, le besoin simplement de se voir plus, parce que la communication, évidemment, ça, on va jouer les partitions, etc., mais aussi une communication entre nous qui est nécessaire, une complicité, on va dire.
Alors, cette complicité, elle est musicale, j'imagine, mais comment elle se traduit ? Vous parlez quand vous jouez, c'est des gestes.
Justement, je pense qu'elle peut se traduire de différentes façons. Effectivement, par le regard, par les gestes.
Oui, alors justement.
Le fait d'être ensemble aussi.
Oui, voilà, déjà être ensemble, c'est vrai que après, évidemment, on va beaucoup se parler quand on va se voir en direct pour se mettre d'accord,
au
pour
s'accorder
au moment des répétitions. D'accord. Voilà. Et après, au moment du jeu, aussi bien même à la fin des répétitions ou même et après pendant le concert, ça va être des regards, ça va être des respirations communes, des mouvements, voilà, et c'est pour ça que c'est très important de se voir régulièrement. Et c'est vrai que les artistes ont quand même beaucoup souffert de la période du Covid où on était séparés, où on devait se voir, même on travaillait, y compris avec les élèves en visio,
distance,
c'était
oui.
très très compliqué. C'était Évidemment. Très compliqué parce qu'il y a pas ce moment de lien. Alors on a réussi à.
Il y a l'aspect musical, mais il y a l'aspect humain, interpersonnel,
voilà,
en direct de préférence et dans l'immédiateté, bien sûr. Donc j'entends là que vous me parlez des lectures de partitions finalement, quand vous préparez quelque chose, puis de là on passe au réglage, chacun pour soi, et puis après quand on est ensemble, en répétition, de préférence en présentiel bien sûr, et puis les choix esthétiques. Alors comment vous, il y en a un qui dit c'est comme ça, ou vous discutez, comment ça se passe ?
Alors quand on a des hésitations, on consulte des partitions que l'on sait sûres avec les indications vraiment très précises des compositeurs. On échange et puis après, quand quelqu'un a une idée bien précise, il essaye de convaincre les autres en argumentant, en jouant, en essayant plusieurs choses, et on trouve toujours un accord, même si c'est pas tout de suite, ça mûrit, on réfléchit, et on essaye, et on se met d'accord.
Avez-vous travaillé avec Marie-France Brière? Je crois que la réponse est oui, mais dites-nous à quelle occasion.
Oui, tout à fait. Donc Marie-France, qui organise le Festival du film francophone d'Angoulême, a fait appel à nous pour faire la musique d'un documentaire qu'elle a réalisé sur Vera Zano, qui s'appelait Si New York s'appelait Angoulême, qui est un documentaire qui est passé et qui passe encore de temps en temps à la télé. Alors, et donc nous avons joué.
Vera Zano, qui c'était ça?
Vera Zano, c'était un navigateur du XVIe siècle qui a été missionné par François Ier pour partir à la découverte du monde. Et il a découvert la baie de New York. Donc à l'origine, la baie de New York s'appelait la baie d'Angoulême, la nouvelle Angoulême.
Angoulême, oui, c'est ça. Mm-hmm. Et puis peut-être que c'est pour ça qu'il y a une place de New York à Angoulême. Forcément. Mm-hmm. Donc le lien avec les instruments, les instrumentistes, et puis avec les événements locaux, les festivals, etc. Donc c'est encore la rencontre et l'ouverture. Vous avez parlé des instrumentistes tels que Sylvie Bouchetière à la harpe, par exemple. Et puis, c'est peut-être le moment de donner la réponse au jeu, Jean-Marc. Je pense qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui ont appelé, et on va avoir quelqu'un, bien sûr, qui va gagner le droit de venir participer à une prochaine émission de Donnez-nous vos notes sur RDC, et qui va gagner aussi un CD, bien sûr. Vous êtes bien sur RDC pour Donnez-nous vos notes. La question était, quel est le nom de l'ensemble invité du jour? La réponse c'est, et ils vont me le donner tous les trois ensemble, le quatuor
Hermione.
Bravo. Le quatuor Hermione, tout à l'heure nous aurons le nom de la lauréate ou du lauréat. Il existe des enregistrements de l'orchestre de chant de Nouvelle-Aquitaine dans lequel vous jouez les uns et les autres?
Oui, absolument. Ça fait plusieurs années que l'orchestre de chant de Nouvelle-Aquitaine a fait plusieurs enregistrements. Je ne sais plus lequel était le premier.
On a fait des pièces de Théodore Dubois.
Oui.
On a enregistré
peut-être
donc.
C'était aussi L'amour sorcier, non?
Ah oui, peut-être L'amour sorcier de Faya. Le premier.
Le premier projet vraiment qui tenait très très à cœur à Jean-François Esser, donc notre directeur artistique. Voilà, la collaboration avec.
Directeur artistique, c'est celui qui oriente les choix de l'orchestre.
Alors voilà, directeur artistique, c'est lui qui choisit en fait les programmes de l'orchestre et puis qui donne l'orientation artistique, on va dire, de l'orchestre, de choisir plus ou moins tel ou tel répertoire.
Et il est aussi chef d'orchestre alors?
Alors il est surtout pianiste, très 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 célèbre bien sûr, et puis aussi chef d'orchestre effectivement, il est invité dans différentes formations et il nous dirige aussi de temps en temps.
Donc vous savez que cet orchestre de chambre, il est dirigé parfois par Jean-François Azer, mais parfois par d'autres?
Oui, c'est un orchestre qui pratique vraiment beaucoup la politique des chefs invités, donc ce qui est, je trouve personnellement, une chance pour un orchestre, parce que du coup ça nous permet de travailler avec des personnalités très différentes et qui du coup apportent toutes des choses très intéressantes à l'orchestre.
Une illustration avec le concerto L'Empereur de Beethoven, interprété en tout cas un extrait par l'orchestre de chambre Nouvelle-Aquitaine. Je suis sûr que l'orchestre de chant Nouvelle-Aquitaine pratique aussi l'ouverture vers différents styles, différentes époques. Peut-être que le deuxième extrait que nous allons entendre, vous allez nous dire un petit peu ce que c'est, Cécile ou Jacques, je ne sais pas, qui vous voulez. Parlez-nous de Hermann.
Alors Hermann, c'était le compositeur fétiche de Alfred Hitchcock. Donc il écrit beaucoup de musique de film. Et évidemment, c'est Une des musiques les plus célèbres, c'est celle qu'il a écrite pour Psycho. Le premier... Alors évidemment, c'est une musique assez trépidante et assez illustrative, en fait. Hein. Il y a eu beaucoup dans l'histoire de la musique des compositions, des compositeurs à programme, notamment depuis le 19e siècle, beaucoup chez les romantiques.
Compositeurs à programme, ça
veut dire... programme, c'est-à-dire qu'avec un but précis, c'est-à-dire une illustration précise. Et là, dans le cadre des films, évidemment... C'est, alors là, on va entendre le prélude,
le prélude, oui.
qui est le générique ou le début du film, c'est assez trépidant.
Voici le prélude de Psycho de Hitchcock. C'est interprété, non, c'est composé par Herman, c'est ça?
C'est Herman, et,
ouais. Et c'est l'orchestre de chant Nouvelle-Aquitaine. Vous nous proposez un autre extrait, c'est ça?
Alors là, c'est encore plus illustratif, et puis c'est une musique qui est vraiment très connue, puisque c'est au moment le plus dramatique du film.
Et donc c'est le moment le plus dramatique de la musique peut-être, de Mulder, c'est ça? Ça va bien finir ou pas, j'en suis pas si sûr que ça. Des captations de l'orchestre de chant de Nouvelle-Aquitaine, donc il y en a, vous venez de le dire, on vient d'en entendre. Est-ce qu'il y a quelques captations du quatuor en CD ou en vidéo ou...
Non.
Il y a des choses qui sont accessibles, pas encore.
Nous n'avons pas eu le... C'est une question de temps aussi, hein, de passer du temps, plusieurs jours en studio d'enregistrement, non, on n'a pas de CD.
Alors pour vous contacter ou pour entendre parler de vous, il y a un site. Il y a Facebook, je suppose.
Oui, on a un site Facebook.
Et puis vous avez un site internet, bien sûr. Les gens pourront appeler RDC au 05 45 95 09 87 pour avoir les moyens de vous contacter s'ils veulent vous revoir, vous entendre, ce dont je ne doute absolument pas. Et puis, tiens, j'oserais, celui ou celle qui a gagné le jeu aujourd'hui, si on pouvait lui donner une photographie dédicacée du quatuor Armian, je suis sûr qu'il serait ravi. Quand vous... rencontrer des organisateurs pour un concert, il y a des affiches, je suppose. Les affiches sont faites en concertation ou c'est l'organisateur? Comment ça se passe? C'est vous qui décidez quelle photo est mise ou c'est avec l'organisateur?
Oui, voilà, tout à fait. On parle avec lui, on lui envoie des photos, le programme.
Oui, ce dont il a besoin aussi, parce que ça dépend peut-être un peu parfois.
Besoin, envie?
Bon, voilà, par rapport à sa propre communication, sa propre diffusion, c'est important de pouvoir s'adapter aussi, je pense.
Ouais, et le programme, donc, il peut être complètement différent. Vous êtes prêt à jouer toute forme de musique?
Bah, toute forme de musique qui nous parle, qui nous plaît et qui nous...
Voilà, je crois que c'est des mots importants.
Qu'on va défendre avec tout notre cœur.
Donc un programmateur, quelqu'un qui a envie d'organiser un concert, peut vous contacter par l'intermédiaire de RDC, je le disais, et vous demander, voilà, j'ai... un festival, et c'est le festival, je vous dis n'importe quoi, Brahms par exemple, est-ce que vous avez quelque chose à jouer de Brahms ou Bartok ou etc. Ça peut fonctionner,
oui,
comme ça
fait, tout à fait.
C'est très, très intéressant à savoir, parce que c'est pas forcément vous qui avez uniquement un répertoire, vous pouvez avoir une ouverture par rapport à la demande, c'est
bien
ça
sûr, bien
oui,
sûr,
tout à fait.
Vous savez forcément qu'il y a des quatuors un peu particuliers qui n'hésitent pas à lier musique et humour. Dans les quatuors particuliers, il y a le quatuor, vous connaissez, j'imagine. Oui. C'est quelque chose à quoi vous pensez, ça? Faire un petit peu de mise en scène? Ou pas encore?
Alors, on a déjà fait, hein, ça nous est déjà arrivé dans différentes formations. Hein. On avait fait, je me rappelle, il y a très longtemps, avec Christine, quand j'étais arrivé dans la région, on avait fait un programme autour du voyage, justement, avec un petit peu de mise en scène. Voilà, c'est, ça peut arriver. Après, pour faire quelque chose comme les prestations que font le quatuor, là, que vous connaissez, moi je connais bien le violoncelliste, c'est vraiment encore un travail très très particulier, et ça, nous on n'a pas trop l'occasion de le faire. C'est vraiment, pour l'humour, c'est vraiment très très particulier.
En tout cas, voilà ce que ça donne par rapport aux quatre saisons.
Se ramasse à l'appel, tu vois. Je n'ai pas oublié les feuilles mortes. Se ramasse à l'appel, les souvenirs et les regrets aussi.
Voilà, donc j'attends impatiemment de vous voir et entendre chanter en même temps que vous donnerez une prestation instrumentale. Je ne doute pas de la réussite. En tout cas, vous entendez, puisque c'est une captation publique, la réaction des auditeurs qui est tout à fait évidemment intéressante et immédiate. Un autre quatuor, c'est le Mozart Group, vous connaissez peut-être aussi, qui a proposé Eine kleine World Music. Et voici la Kleine World Music par le Mozart Group. C'est peut-être le moment pour s'entraîner. C'est une voix d'homme hein, qu'on vient d'entendre. Mais ça peut être une femme aussi, pourquoi pas.
Il faut qu'il se mette au chant tyrolien.
Voilà, c'est ça.
Yolo, bien sûr. Toujours dans l'univers des quatuors et de l'humour, on peut ajouter les Stradivaria, que j'ai découvert très très récemment, avec la particularité d'une composition avec violon, alto, violoncelle et contrebasse. Parce que dans votre quatuor, il n'y a pas de contrebasse. C'est un choix, c'est historique.
C'est historique. C'est vrai que voilà, le quatuor à cordes, de par la base, c'est vraiment avec les quatre voix, la répartition des cordes frottées. Alors ensuite, on peut vraiment aussi jouer des quintettes. Il y a notamment le quintette La Truite, mais qui est avec piano. Et là, du coup, c'est un quatuor avec violon, alto, violoncelle et contrebasse, le piano.
La contrebasse, voilà. C'est le faux ami, alors ?
Non, c'est pas le faux ami. C'est un instrument qui est vraiment très très riche, très intéressant, absolument indispensable dans l'orchestre. C'est vraiment l'octave supplémentaire grave qui donne de la rondeur à un orchestre.
Et de la puissance et de la puissance, présence, bien sûr, la profondeur, oui. Et puis Salut Salon, un quatuor formé de deux violonistes, une violoncelliste et une pianiste. Historiquement, moi je voudrais quand même citer le Gewandhaus Quartet, parce que ce quartet a été fondé en 1808 et c'est le plus ancien quatuor du monde. et se produit sans interruption depuis plus de 200 ans. Alors, ce n'est pas forcément les mêmes instrumentistes, hein, parce qu'il y a un relais, évidemment, comme dans d'autres, le Golden Gate Quartet, par exemple, ou les King Singers pour le domaine vocal. Au répertoire de cet ensemble figure le quatuor numéro 14 en sol majeur de Mozart, une pièce surnommée Le Printemps, et puis c'est le premier des quatuors Haydn, en tout cas c'est comme ça que Mozart les a appelés, c'est le premier des 6 quatuors à cordes qu'il a composés en l'honneur de Haydn, c'est-à-dire le père du quatuor. Voilà, chers membres du quatuor Hermione, la boucle est bouclée, ou presque, mais avant de conclure, on voudrait quand même entendre parler de vos projets, soit ce récemment vécu, soit ce à venir. Parlons des projets passés.
Alors, le dernier concert que nous avions donné donc en janvier, donc j'en ai parlé tout à l'heure, avec Harp, avec Sylvie Bouchetière, dans un festival en Dordogne qui est organisé par deux personnes passionnées de musique classique, le festival Clavicorde. Et puis là, très prochainement, le 14 mai, nous avons un concert au château de Bonneuil-Matour, ouais, qui se trouve à côté de Poitiers.
Tout à fait. Et donc, nous y jouerons une transcription dont on parlait donc tout à l'heure, de concerto de Mozart, donc piano et quatuor à cordes, qui d'habitude se joue avec piano et orchestre. Et puis, nous jouerons aussi donc le premier quatuor de Robert Schumann.
Auditrices, auditeurs, nous voici au terme de notre voyage du jour, déjà, mais des deux meilleures compagnies qui ne se quittent. Ne coupons pas les cheveux en quatre pour affirmer haut et fort que le quatuor, c'est chouette. En tout cas, c'est une de mes conclusions de cette matinée avec le quatuor Hermione, qui nous en a apporté la preuve et de la plus belle des manières. Merci beaucoup, Cécile.
Merci à vous.
Merci, merci. Christine.
Merci
Catherine. On lui transmettra. Merci, Jacques.
Merci
d'avoir accepté de nous donner vos notes sur les ondes de RDC 93.4 92.5. Merci à Jean-Marc, ne l'oublions pas, pour la technique qu'il s'est toujours déployée au bénéfice du meilleur confort des auditrices et des auditeurs pour ce qui est de l'écoute, mais aussi pour celui de l'animateur que j'ai le plaisir d'être sur l'antenne de RDC. Merci à celles et ceux qui ont participé au jeu du jour. Félicitations à Mélanie de Montmoreau qui a gagné donc un CD et le droit d'assister à une prochaine émission de la série Donnez-nous vos notes. Merci enfin et surtout à vous, auditrices, auditeurs, qui écoutez l'émission, de plus en plus fidèles, de plus en plus nombreux, et je suis ravi, je le redis, des témoignages que vous transmettez comme preuve de votre satisfaction et de votre plaisir à l'écoute de Donnez-nous vos notes. Alors continuons, le mois prochain, le 25 mai, c'est Didier Frébeuf qui nous donnera ses notes. Je sais déjà quel sera notre plaisir à accueillir et entendre cet artiste de renom. Il est pianiste, il est jazzman, il est compositeur, il est arrangeur, il est accompagnateur, il est chef d'orchestre, il est pédagogue. Oui, rencontrer Didier Frébeuf, c'est rencontrer toutes ces personnes en une seule. Alors à bientôt Didier. Encore merci aux membres du quatuor Hermione. Encore merci Cécile, Christine, Catherine, Jacques, d'avoir magnifiquement su donner vos notes, celles que vous avez si bien choisies pour illustrer et accompagner votre parcours. Sachez dès à présent que rien ne vous empêche dans quelques temps de rendre une deuxième visite à RDC, par exemple pour une nouvelle émission de la série Donnez-nous vos notes, que j'ai l'honneur et le plaisir d'animer. Prenons rendez-vous, si vous voulez bien, nous pourrons reparler du quatuor Hermione. Grâce à Jean-Marc, le podcast de l'émission d'aujourd'hui sera disponible très bientôt sur le site de RDC. Pour l'heure, au revoir au quatuor Hermione, au revoir Cécile.
Au revoir.
Au revoir Christine,
au revoir
Catherine par la pensée, au revoir Jacques.
Au revoir Stéphane.
Au revoir Jean-Marc, merci encore une fois. Au revoir, chers auditrices, chers auditeurs. J'espère que les notes données par le quatuor Hermione vous ont été agréables. Et plus encore, à bientôt sur les ondes de RDC. Jean-Marc, tu sais, tu peux envoyer le générique, car pour aujourd'hui, Donnez-nous vos notes, c'est fini. Donnez-nous vos notes, c'est fini pour aujourd'hui. Merci beaucoup à l'invité d'avoir accepté de nous donner ses notes. Merci à l'invité d'être venu nous donner ses notes sur les ondes de RDC, Radio Diffusion Charentaise, 93.4, 92.5. C'était Donnez-nous vos notes, une note, des notes. Donnez-nous des notes, des bonnes notes. Donnez-nous des bonnes notes, rien que des bonnes notes. Donnez-nous vos notes. Passeurs et passeuses de rêves, donnez-nous vos notes. Passeuses et passeurs d'émotions, donnez-nous vos notes. Musiciens, musiciennes, magiciens des sons, magiciennes des sons, magiciennes des mots, magiciens des mots, donnez-nous vos notes. Chanteurs ou chanteuses, instrumentistes, en solo comme en groupe, donnez-nous vos notes. Donnez-nous vos notes, c'est fini. C'est fini pour aujourd'hui seulement. Chers auditeurs, chères auditrices, nous aurons bientôt le plaisir de recevoir un nouvel invité ou une nouvelle invitée, et pourquoi pas un groupe d'invités. Alors, à vous toutes, à vous tous, je donne rendez-vous pour la prochaine émission de Donnez-nous vos notes sur les ondes de RDC, Radio Diffusion Charentaise, 93.4, 92.5. Qui voudra bien nous donner ses notes? Merci à Jean-Marc pour la technique apportée, assurance de qualité tout au long de l'émission. Et surtout, merci à vous, auditrices et auditeurs, de Donnez-nous vos notes. À bientôt. Pour moi, ce sera encore une très grande joie. Alors oui, à bientôt. À bientôt pour une prochaine émission de la série Donnez-nous vos notes. Voilà, c'est la fin.